This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché et je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Fournier, le directeur santé et écologie de la société mutualiste française Harmonie Mutuelle, qui offre un large panel de services donc, comme la complémentaire santé, la prévention, la prévoyance, l'épargne. J'en ai oublié ou pas, Lionel ?
Non, mais en fait, on fait partie d'un groupe, qui est le groupe Vive, et dans lequel il y a tout un dispositif et beaucoup d'établissements de soins et de santé, donc ça va des centres optiques, en passant par les centres dentaires, les EHPAD, les différents services, et puis jusqu'aux cliniques, et en passant aussi par l'assistance. Voilà.
Donc c'est clairement dans votre ADN de marque les enjeux RSE, puisque surtout le côté, le pendant social et sociétal, c'est quand même quelque chose auquel vous répondez au quotidien.
Mais en fait, les mutuelles, elles ont été créées pour répondre à un
c'est
besoin
ça,
social.
C'est ça, tout à fait. C'est votre ADN de marque, vous êtes presque société à mission. Sans l'avoir inscrit dans vos statuts.
Mais on l'a inscrit.
Ah, voilà. Donc vous êtes vraiment société à mission.
Oui.
Juste les devins.
Ouais. On est société à mission. Alors, on est devenu une entreprise mutualiste à mission.
Ouais, on a... Parce que vous êtes à plusieurs, c'est ça ?
Non. En fait, c'est une mutuelle. Une mutuelle, c'est une forme juridique assez particulière. Donc, c'est une entreprise d'abord sans but lucratif. Nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. Donc, il faut avoir un équilibre économique. Hein. Nous sommes une entreprise, donc il faut assurer cet équilibre économique. Mais il n'y a pas d'actionnaires, donc pas une partie des résultats positifs quand on les réalise qui sont à verser aux actionnaires. On garde l'intégralité pour pouvoir réinvestir dans des services au bénéfice de nos adhérents. Donc d'abord, c'est une mutuelle, donc un but lucratif, organisme démocratique. C'est-à-dire que nos adhérents, nos 5 millions d'adhérents, ont un bulletin de vote et peuvent élire leurs représentants à l'Assemblée Générale, qui eux-mêmes désignent les administrateurs.
Vont-ils aux urnes ? Plus que pour les élections ?
Moins que pour les élections,
ah
malheureusement,
ben
mais ils y vont quand
D'accord.
même. Hein, voilà, donc c'est pas simple, mais pour faire comprendre la différence entre une... Voilà, parce que les gens souvent souscrivent un contrat d'assurance, il faut leur expliquer que ben voilà, c'est une société d'assurance un peu spéciale dans laquelle ils ont un pouvoir. Et que les administrateurs sont bien des adhérents lambda qui ont été élus et qui veillent à ce que l'entreprise soit gérée dans l'intérêt de ses adhérents. Donc ça, voilà. Donc on aurait pu, à la limite, se contenter de ça en disant on a un but non lucratif, on a une représentation qui assure la représentation des clients, ce qui est assez moderne dans une entreprise. On cherche souvent ça. Ben nous on l'a depuis le début. On aurait pu s'arrêter là, mais on s'est dit que le statut ne valait pas vertu. Et que le fait de dire qu'on était une mutuelle, c'était plus suffisant aujourd'hui pour bien faire comprendre quelle était notre différence. Parce que les gens confondent mutuelle avec contrat d'assurance complémentaire santé qui peuvent être vendus par des compagnies d'assurance classiques. Donc, et puis, on avait aussi l'objectif de ne pas se contenter d'être entre nous. On s'est dit, si on devient une entreprise mutualiste à mission, donc on a bien voulu ces trois termes-là, eh bien on va avoir un comité de mission, on va avoir un organisme tiers indépendant. Et puis, on va afficher ce qu'on a vraiment envie de faire, quelle est notre mission. C'était aussi l'occasion, on en reparlera peut-être tout à l'heure, de revisiter en interne la vision qu'on avait de notre métier et notre mission. En tout cas, il y a eu un débat qui a été intéressant. Et à partir de cette mission qui est affichée, d'abord la communiquer, et puis montrer par un comité de mission, qui est évidemment constitué d'un certain nombre de personnes externes, et par l'organisme tiers indépendant, avoir l'humilité, j'allais dire, d'afficher et de faire vérifier ce que l'on faisait.
Et quelle est cette mission alors ?
Alors la mission, elle tourne autour d'une vision de la santé que nous avons. Et elle est la suivante, c'est agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques afin d'améliorer la santé des personnes autant que celle de la société par la mobilisation de la force des collectifs.
Ça, c'est une raison d'être en fait. C'est
oui,
la redéfinition
c'est
de votre raison d'être.
C'est la raison d'être.
Et qui est inscrite dans vos statuts, d'où votre...
Tout
Très
à fait.
Bien.
Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une vision de la santé qui est à la fois une santé humaine et une santé des écosystèmes, puisqu'il y a la dimension écologique. Hein. On ne peut pas durablement vivre en tant qu'être humain en bonne santé dans un écosystème, dans une biodiversité qui se dégrade. On a à la fois une notion d'une santé qui est une santé individuelle, mais aussi une santé collective. Santé sociale.
Je regardais un petit peu, puisque je me suis quand même documentée sur... Oui. Il y avait beaucoup, beaucoup cette notion de collectif chez vous qui ressort énormément.
Oui.
C'est vraiment quelque chose qui est dans votre ADN, ça, j'ai l'impression.
Ben oui, parce que c'est la notion de mettre, de mutualiser.
Mm.
Alors, c'est vrai qu'on peut prendre la mutualisation au sens peut-être assurantiel du terme, alors qui est important, mais qui est peut-être un peu réducteur. En disant, tiens, on met en commun des cotisations, et ces cotisations vont servir pour celui qui en aura besoin ou qui aura... subit le préjudice. Voilà. On peut prendre cette notion-là, mais la notion des mutuelles, au tout départ, lorsqu'elles ont été créées, en particulier avec l'émergence des mutuelles en France, c'était au 19e siècle. Et on voit bien que les mutuelles, elles avaient différentes formes d'action, et que c'était avant tout de l'entraide. Donc cette notion de collectif, ok, elle s'applique au fait de mutualiser des moyens financiers, des cotisations, mais ça va au-delà. On peut construire des choses ensemble, que ce soit avec des particuliers ou des entreprises, des dispositifs très concrets et qu'on peut monter ensemble et qui peuvent aider à améliorer les conditions de vie.
Est-ce que tu as des exemples ? Parce que j'aime bien, moi, tu me parles de concret, je veux
oui.
du concret.
Eh bien, c'est très bien. Pour l'instant, on n'en a pas encore beaucoup. Mais voilà
D'accord.
les démarches qu'on est en train de mener. À côté de notre métier d'assureur, qui est indispensable et qui est important. On n'aura pas demain tout le monde en bonne santé, etc. Dans le domaine de la prévention, on le faisait déjà, mais on veut, en particulier vis-à-vis des entreprises, donc on est en train de développer tout un tas de services de prévention et en trouvant les modèles économiques qui vont bien. Mais on va aller au-delà encore, parce que la prévention, souvent, on est assez proche de l'origine de la maladie, quoi. Et puis, on est souvent, dans la prévention, sur des choses qu'il faut faire à titre individuel. Et on s'est dit, il faut qu'on aille encore plus loin, qu'on retrouve peut-être cette idée qu'une mutuelle, c'est aussi la capacité à mettre en synergie les moyens. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais vraiment de manière concrète, c'est qu'on est en train de créer des ateliers de rencontres avec des adhérents particuliers, avec des entreprises. On en a plusieurs prévus là, entre août et septembre, dans lequel...
Mix des rencontres mixtes ou séparées, entreprises et particuliers ?
Alors, on fait un peu les deux. Alors, pour
okay.
les particuliers, c'est des
Hybride.
Particuliers, voire même avec des associations, etc. Par contre, pour les entreprises, on fait un peu mixte, parce qu'on se dit, bon, s'il n'y a que des dirigeants, on va peut-être avoir un certain problème, mais on ne va pas tout traiter. Les problèmes du quotidien, on ne les traitera peut-être pas. Donc, on propose aux entreprises de permettre à 3-4 salariés de venir assister à ces ateliers. Et on les croise avec 3 ou 4 autres entreprises dans un territoire. Parce que la notion de territoire est hyper importante. Et l'idée, c'est de se dire, mais finalement, vous qui voudriez adopter des modes de vie plus en accord avec l'environnement et votre santé, qu'est-ce qui vous empêche de le faire ? En matière d'alimentation, en matière de mobilité, etc., là, tout est ouvert. Et l'idée, c'est après de se dire, mais on va essayer de traiter un ou deux sujets et dire, tiens, il y a un ou deux sujets sur lesquels on est capable de trouver des solutions qu'on peut mettre de manière collective. Alors, je vais prendre un exemple, parce que ça, je l'ai mené non pas dans le cadre de la mutuelle, mais dans le cadre d'une association dont je m'occupe à Nantes. On a mis en place ce qu'on appelle le travail rapproché. Là, on est parti de l'idée, une partie de l'idée que le télétravail, ok, c'était très bien, ça a des vertus, par exemple, en particulier environnementales, ça évite de se déplacer, de traverser, je suis à Nantes, à la métropole.
Tout dépend si la personne se suréquipe en matériel chez elle.
Ouais, c'est
tout
ça.
Tout dépend un petit peu aussi de la consommation après de la personne en télétravail. Hein.
C'est vrai, mais d'après ce que
nous
dit l'ADEME,
a
priori,
sur
le plan
échelles,
environnemental,
fait,
c'est plutôt
fait.
Pas mal. Ça, c'est plutôt bien. C'est pas mal aussi pour éviter des dépenses inutiles, etc. Bon. Par contre, il y a des gens, qui ne peuvent pas. Parce que si on n'a pas un bureau isolé, enfin une pièce isolée, ça devient vite compliqué. Puis,
qu'on pas de clim. Enfin, alors, je ne suis pas pro-clim, hein, ouais. je tiens à le dire. Hein, mais quand il fait super chaud en été, de travailler de chez soi, je pense que pour certains, il vaut mieux avoir une pièce unique où il y a un peu d'air frais que chacun mette sa clim chez soi. Quoi.
C'est ça. On n'a pas forcément les conditions matérielles pour le faire.
Ouais,
et puis, il y a des gens aussi qui ont absolument besoin. Parce que le fait de rencontrer des collègues, quelquefois, c'est les seules personnes qu'on va voir dans la journée. Or, les relations sociales de qualité, c'est un facteur de santé. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un vrai facteur de santé. Et donc, on s'est dit, bon, il y a des avantages de télétravail, mais pas que. Comment on peut garder les avantages en éliminant les inconvénients? Donc, on s'est mis à plusieurs entreprises. Là, sur Nantes, on est une quinzaine d'entreprises. On s'est dit, aujourd'hui, avec le télétravail, on a quand même quelques bureaux libres. On va se prêter les bureaux entre nous et les mettre à disposition d'un collaborateur qui n'est pas le collaborateur d'entreprise, mais d'une autre entreprise qui est dans le réseau et qui habitera à côté. Donc, plutôt que de télétravailler chez lui, dans de mauvaises conditions matérielles, comme on le disait tout à l'heure, mais il va venir, souvent, comme c'est plus près, il va venir à pied, en transport en commun, en vélo, comme il veut. Et c'est ce qui se passe. Hein. Et donc, il va trouver des espaces de travail adaptés, professionnels, et puis des gens qui ne sont peut-être pas ses collègues, mais des gens avec qui il pourra partager le repas et discuter. Donc voilà.
Oui, donc en plus, tu vous répondais même à un problème que j'avais identifié dans l'immobilier, c'était ces bureaux vides. Finalement, oui. Il y a de plus en plus de bureaux vides. Donc maintenant, finalement, vous réussissez à optimiser ces espaces.
Alors, on ne les optimise pas sur le plan économique.
D'accord.
Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment du prêt. Par contre, on leur redonne une utilité. Là, je suis d'accord. Parce que l'entreprise qui va
faire
ça...
C'est pas les bureaux fantômes, quoi.
Et puis, elle va permettre à ses salariés, à eux, qui sont dans les mêmes conditions, de retrouver des conditions de télétravail plus adaptées. Donc, c'est une manière de les optimiser.
Finalement, c'est un levier économique parce que le bien-être va générer de la performance. La performance va générer de la croissance et tout
quanti. En tout cas, on peut l'espérer, oui. Donc, voilà. Pour donner un exemple, et il y a sûrement tout un tas d'autres dispositifs, j'en ai d'autres en tête, mais peu importe.
Ouais,
l'idée, c'est de partir des questions, des souhaits, on ne va pas convaincre tout le monde, des entreprises qui ont envie de bouger, de problèmes concrets, et de voir comment on peut les aider par justement la mise en commun des énergies et la mise en commun de moyens à les surmonter.
Quels autres engagements tu as? Peut-être, tu me parlais beaucoup d'écologie, je suis curieuse, parce que juste avant, off, tu me dis, on fait plein de trucs, tu vas voir, j'ai envie de te... Donc maintenant, je veux savoir.
Je ne sais pas si on fait plein... Enfin, on démarre plein de choses.
Non, mais c'est vrai qu'on ne vous attend pas forcément. Ouais. Ce que je te disais, moi, j'allais te poser plein de questions sur vos missions sociales et sociétales. Mais toi, quand tu m'as dit, bah non, en fait, nous, on va au-delà et on est engagé sur les sujets environnementaux, bah, j'ai envie de savoir comment.
Et ça ne s'est pas entendu tout à l'heure, mais il y a un pluriel, écologie. Dans ma fonction. C'est santé, écologie au pluriel.
Mais je ne pouvais pas le dire écologise.
Non, c'est pour ça
écologies.
Que je...
Directeur santé and écologise.
Ça aurait été pas mal. Hein.
Ça aurait été sympa.
Ouais. Non, mais voilà. L'idée, c'est justement de repartir de la notion de santé et de dire que la santé, elle est interdépendante, elle est dépendante, bien entendu, de notre patrimoine génétique, mais aussi de nos conditions de vie, pour faire simple. Et on est reparti de l'étymologie d'écologie pour le mettre en pluriel en disant qu'on a des conditions de vie environnementales, mais également sociale et économique, et c'est là-dessus qu'on veut jouer. Voilà, pas simplement être rembourseur de soins, mais dire, mais on aide les gens à améliorer leurs conditions de vie.
En fait, tu améliores à la source pour éviter de mettre des pansements, quoi.
Exactement. Donc, alors évidemment, il y a les dimensions sociales, on y reviendra tout à l'heure, mais ça, on a fait déjà beaucoup de choses depuis des années. Donc, on va continuer, évidemment, mais bon, voilà, en particulier sur l'inclusion, l'égalité femmes-hommes, l'inclusion des personnes, des travailleurs handicapés, des personnes handicapées, etc.
C'est un vrai souci, ça.
Ouais, on a vraiment plein de choses. Donc, moi, là-dessus, bah, évidemment, puis en plus, ce qui est bien, c'est que ma direction est loin d'être seule à s'en occuper. Il y a une direction de ressources humaines qui est au top là-dessus. Donc, c'est très bien, ça roule. Tu vois, par exemple, je leur ai présenté Mixity, je trouvais ça intéressant qu'on puisse mesurer des choses.
Comment s'appelle-t-elle
Sandrine Charpentier.
Oui, Sandrine, mais il y a Dominique Crochu qui...
Oui.
Ah bah, je la connais très bien, Dominique, oui. Elle va s'adresser avec moi. Ouais. Elle est à fond.
Voilà.
Oui, donc oui, si vous jouez donc, très bien, c'est avec Mixity, oui, oui, donc, ils sont hyper engagés.
Fait... Oui, puis on a fait faire notre évaluation par Mixity avec une très bonne évaluation, etc. Donc, moi, je suis plutôt pour là en soutien, voilà, mais ça roule de ce côté-là, mais on pourra en reparler parce que c'est intéressant.
C'est un engagement fort, oui.
C'est un engagement fort, et puis avec une vraie reconnaissance, tu vois, par exemple, sur l'évaluation égalité femmes-hommes, on a 98, enfin voilà.
Quand tu dis l'évaluation, c'est au sein de vos salariés?
Oui, c'est ça. Au sein de nos salariés, il y a le score. Il y a un score qui... Enfin, on doit donner un certain nombre de données. Et tous les ans, il y a une évaluation qui est faite pour les entreprises de taille importante. Et nous, on est à 98 sur 100.
Mais au-delà de l'interne, moi, ce que j'aime bien comprendre, c'est
comment, on fait.
Comment vous faites. Ouais, on va peut-être rester sur le social, on verra l'écologie après. Mais du coup, quelles sont vos actions concrètes ouais. en externe pour promouvoir cette inclusion, cette diversité, cette mixité, cette égalité, parce qu'on en a vraiment besoin. Et je pense que c'est des entreprises comme la vôtre, justement, qui sont hyper engagées sur ces sujets-là. Surtout quand on défend la santé, c'est une santé pour tous. On doit tous être égaux sur la santé. Et on ne l'est pas, parce qu'on a, comme tu le disais, même si on a un patrimoine génétique, on n'a pas tous les mêmes conditions de vie. Et on n'a pas tous les mêmes accès aux soins. Donc, c'est hyper compliqué et c'est cher. Alors nous, on est bien couverts en France et on a beaucoup de chance, mais c'est, voilà, je vois très bien, alors vous ne voyez pas la moue, mais je suis entièrement d'accord, on n'est pas tous égaux du tout. Comment vous arrivez à peut-être mener ce combat-là ?
Il y a différentes façons. D'abord, on essaye de manière modeste de partager ce que l'on fait, de voilà, quand nos entreprises clientes, etc., discutent avec nous sur ce sujet-là, et on a en particulier mis une instance qui s'appelle Harmonie Entreprise, dans laquelle on réunit un certain nombre d'entreprises, plutôt de taille des entreprises importantes, hein, à partir de 1 000, 2 000 salariés. Et là, c'est des sujets dont on discute, à la fois pour partager ce que les uns et les autres font. Donc ça, c'est un premier vecteur. Il y a un deuxième outil auquel je pense qu'il est important. On a lancé un dispositif d'évaluation qu'on appelle Harmonie Potentiel Humain, et qui est un outil qui a été élaboré par l'Université catholique de Louvain, donc quelque chose de tout à fait avec des bases scientifiques solides, et dans lequel les entreprises peuvent faire passer ce questionnaire-là, un outil d'évaluation, et qui permet à une entreprise de se rendre compte et d'avoir une vision et une photographie assez juste de ce qui va énergiser, de ce qui va apporter de l'énergie et du positif pour ses collaborateurs, et en particulier ce qui freine. Et là, par exemple, s'il y a un problème aujourd'hui dans une entreprise d'inclusion d'un certain nombre de populations, eh bien, c'est des choses qui ressortent. Et puis derrière, une fois qu'on a ce diagnostic-là, qui est partagé avec l'entreprise, eh bien, ça permet derrière de trouver des dispositifs de formation, d'ateliers et autres qui permettent d'aller traiter le sujet. Donc voilà comment on procède avec un diagnostic et derrière, soit des équipes en interne qui peuvent traiter les sujets, soit on est capable d'aller chercher les bons experts pour pouvoir les mettre en relation avec l'entreprise et puis traiter toutes les difficultés, qu'elles soient liées à l'insertion, qu'elles soient liées aussi à l'équilibre entre vie pro et vie perso.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de plus en plus d'ailleurs de burn-out, etc. Ça, il y a moyen de le voir dans
Ah, ça, on le voit par cet outil-là et on voit même parce qu'il y a une dimension individuelle et collective.
Le truc explose au moment du burn-out personne.
Mais sur l'outil, ça permet, si à un moment donné, une personne, on voit qu'elle n'est pas forcément pas en bonne situation, de pouvoir tout de suite... Alors évidemment, il n'y a qu'elle qui le
d'accord,
sait.
D'accord, c'est hyper... C'est très
bien. C'est tout à fait confidentiel. Après, l'entreprise n'a qu'une vision globale de ce qui se passe.
C'est juste qu'il y a des points à améliorer, quoi. Mais elle ne sait pas qui.
Voilà, elle a une vision vraiment globale. Par contre, si une personne... Enfin, chaque personne qui est remplie, chaque salarié qui est rempli, après un retour... individuel sur où il en est dans l'équilibre, dans son équilibre personnel, et puis la possibilité d'entrer en relation avec un professionnel en particulier sur la psychologie s'il en a besoin.
Ok, super. Bon, on part sur l'écologie.
En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller sur tout ce qui touche à notre santé.
Ouais.
Donc, la question du dérèglement climatique, de l'atteinte à la biodiversité, aujourd'hui, c'est déjà une réalité. Hein. On a déjà, en particulier en France, des canicules qui posent des problèmes et aux personnes âgées, en particulier isolées, mais ça commence à venir maintenant toucher le monde du travail. Il y a des qu'on est voilà. Et donc on s'est dit, on peut pas nous si on dépasse les 2 degrés, bien entendu que la santé sera touchée, la santé des Français.
Même les 1,5, le GIEC qui demande de rester sous les 1,5, on va pas rester sous les 1,5, on le sait, mais.
L'objectif,
à partir du dépassement des 1,5, ça commence à être la cata. Et alors, si on dépasse les 2, alors là, c'est...
On est d'accord.
Voilà.
On est d'accord. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on agisse. Et on va agir de deux façons. D'une part, nous, en tant qu'entreprise, on va prendre nos responsabilités. Et on a fait notre bilan carbone. On vient d'hier de voter notre stratégie climat. Et puis, comme on a 5 millions de personnes protégées, 70 000 entreprises clientes, on va faire en sorte d'être un catalyseur, un fédérateur. D'abord, je pense que c'est un bon moyen que de dire que ce n'est pas un problème environnemental, c'est un problème de santé humaine. On n'est pas en train de sauver la planète, on est en train de sauver nos conditions de vie pour rester en bonne santé. Donc, je pense que pour mobiliser, je trouve que c'est un bon vecteur. Et puis derrière, voilà, on pense
puis
que
en,
c'est...
Et puis en plus, vous êtes beaucoup dans le scope 3 de beaucoup d'entreprises, donc ça tombe bien, parce que vous allez les pousser dans le bon sens.
Exactement.
Donc dans leur neutralité carbone, vu que le scope 1, scope 2 ne sera plus suffisant et qu'elles devront inclure le scope 3, si vous êtes net zéro, bah, vous allez même avoir un... Et même en termes de compétitivité, ça reste très intéressant pour les entreprises aujourd'hui de s'engager pour le climat.
Bien sûr. Et puis, nous, on a compté d'ailleurs dans le scope 3, on est les premiers à l'avoir fait, tout l'impact carbone des soins et dispositifs médicaux qu'on rembourse. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais à chaque fois qu'on soigne, c'est un impact carbone.
Ah bah ouais. Oh ah ouais, ça doit être... Et est-ce que vous vous engagez ou pas? Parce que moi, j'ai du mal avec l'engagement en net zéro carbone, même si c'est bien en interne. Ouais, vous ne le faites pas. Non. Mais moi, je préfère parce que... Alors, c'est bien pour piloter une stratégie. Par contre, en communication, c'est du greenwashing ou c'est de l'impact washing, parce que c'est compliqué de dire, voilà, on sera net zéro, mais si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas tritouiller les trucs. Donc, vaut mieux se dire, on fait du mieux qu'on peut, on met toutes les actions en place, mais ça me paraît compliqué d'être net zéro carbone pour vous.
Pour l'instant, moi, je ne me suis pas posé la question. Enfin, on ne s'est pas posé.
Puis, c'est quoi les freins? Qu'est-ce que vous avez identifié de plus carbonivore? Je ne sais pas si ça s'appelle, ça fait un peu...
Oui, émetteur de carbone.
Émetteur de carbone. Mais je ne sais pas, carbonivore, on pourrait peut-être le mettre dans le dico bientôt, ce truc-là.
Ça serait peut-être pas mal.
Ça serait peut-être pas mal.
Non, parce qu'on ne le mange pas, le carbone, on l'émet. Tu vois?
Ah, ce serait bien. En fait, ça va être nous. On va peut-être inventer ça.
Pour
décarboner, on va bouffer notre carbone.
Pour l'instant, ça marche pas encore bien. Ça ferait bien.
Et alors, du coup, est-ce que tu as identifié justement ces zones les plus émettrices en carbone?
Alors, il y a trois grands domaines. Alors, si on prend d'abord, nous, ce qui est 54%, c'est les soins et dispositifs médicaux qu'on rembourse. C'est important.
Ah bah oui.
Voilà. Ensuite, à 38%, c'est ça, c'est nos investissements. Parce que nos cotisations, on les reçoit. On doit les mettre en réserve, j'allais dire, pour pouvoir garantir nos engagements, hein, le jour où les gens sont malades. Et donc, il faut qu'on les place. Donc, on investit via des fonds en particulier. On investit. Et donc là, les entreprises dans lesquelles on investit, elles ont un impact carbone. Donc, on doit piloter. Donc, il y a cette partie-là. Et puis après, quand on prend le fonctionnement de l'entreprise, hein, nos déplacements, notre informatique, nos bâtiments, ce qui génère le plus d'impact carbone, c'est nos achats. Pour nos achats, matériels ou immatériels d'ailleurs. Ensuite, nous avons la partie immobilière et puis les déplacements. Voilà. Donc, c'est les sujets. Nous, notre stratégie carbone, elle a deux axes. Le premier, c'est de diminuer l'impact carbone de notre fonctionnement, donc les achats, l'immobilier. Et puis, le deuxième, c'est de nos investissements. On ne s'est pas mis d'objectif de réduction des gaz à effet de serre sur la partie remboursement. On va faire des actions, mais là, on dépend quand même et du choix de nos adhérents et du système de santé.
Et vous ne pouvez pas aiguiller justement le choix de vos adhérents. Ouais, c'est hyper important de sensibiliser, en fait.
On fait ça, on a fait ça l'année dernière, par exemple, lors du Black Friday. Nous, on a fait le Harmony Mutual Friday pour prendre le contre-pied. Et on a beaucoup communiqué sur une marque de lunettes qui vient d'être lancée et dont la monture est fabriquée avec une matière qui n'a aucun intrant pétrolier, c'est du végétal et du minéral, et elle est fabriquée en France.
Mais ça reste compliqué, en fait, de communiquer sans inciter à la consommation, en fait. C'est un peu le problème d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit tous beaucoup plus sobres. Donc, je pense que l'enjeu, c'est de se dire, bon, il faut qu'on adresse nos messages et qu'on arrive à sensibiliser sans inciter à s'acheter 3 paires de lunettes alors qu'on n'a pas besoin.
Mais c'est ce qu'on a fait. Alors après, est-ce qu'on a été... Mais voilà, on a commencé en disant, le jour où vous aurez besoin...
Ouais,
de changer
exactement,
votre paire de
exactement,
lunettes. Voilà.
Ouais.
On a commencé comme ça. Après, voilà.
On
a surtout travaillé, parce que ça fait un an et demi là, qu'on travaille sur notre climat, et on a mobilisé dans la maison, mais vraiment, on a fait une belle mobilisation, parce que moi, la limite, ce qui m'intéresse, c'est pas trop le résultat de la stratégie, c'est comment ça embarque les gens, comment ça embarque les directions, comment ça embarque mes collègues, comment ça embarque les élus d'Harmonie Mutuelle, pour que chacun se dise, bah, tiens, j'ai quelque chose à faire.
Et justement, quelle est la maturité? Parce que toi... C'est ton sujet, c'est ton dada. Objectivement, est-ce que tout le monde est aussi mûr que toi sur ces sujets-là en interne? Comme dans beaucoup d'entreprises, c'est compliqué.
Eh bien, ça a bien progressé.
C'est vrai. Parce que, par exemple, moi, je me dis, tu vois, tu me dis, oui, tout dépend du choix de nos adhérents. Ouais, mais au final, si vous vous dites que vous remboursez 100% des trucs, enfin, ou 90% sur des produits éco-responsables et éco-conçus, vous engagez à rembourser davantage des produits biosourcés et éco-responsables, ça va forcément inciter les gens à opter pour ces trucs-là. Donc, vous avez vraiment une part aussi, je pense.
Alors, on a une part, mais on n'a pas toujours la possibilité de le faire sur le plan juridique, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer en détail, mais il y a des choses sur lesquelles...
Non, parce que je veux juste comprendre, parce que, voilà. c'est une question qu'on pourrait se poser.
Mais il faut réfléchir, on a des choses
à
faire.
Mais on agit,
justement. Là-dessus, on vient de passer un partenariat avec l'ADEME, et je répondrai à toi.
Ah, l'ADEME, oui.
Voilà,
ouais.
Donc avec l'ADEME, en fait, l'idée, c'était de dire, ben, on va inciter nos entreprises, enfin, les entreprises à aller vers la décarbonation. Donc, avec l'ADEME, on a monté un partenariat pour l'instant, parce que, donc on dit, les entreprises qui rentrent sur trois dispositifs, pour l'instant, on a pris trois dispositifs, mais on pourra en prendre d'autres, qui nous paraissent vraiment très sérieux. Enfin, voilà, il y a par exemple les entreprises qui s'engagent sur la décarbonation de leur processus industriel. Donc, c'est vérifié par l'ADEME, c'est des sommes importantes, etc. Donc là, on s'est dit, il n'y a pas de greenwashing.
C'est pour ça que tu m'as dit l'ADEME, c'est l'agence référente sur ce sujet-là.
Nous, on ne veut surtout pas de greenwashing, évidemment. Donc, on s'est dit, les entreprises qui rentrent, par exemple, dans ce dispositif-là, eh bien, on leur accordera des avantages préférentiels pour la protection sociale de leurs salariés. Et c'est une manière de lier le social et l'environnemental. Donc là, on est dans l'éco-incitation. Alors, puis peut-être je pourrais revenir sur comment c'est partagé en interne. Bon, d'abord, on a une direction générale et une présidence engagées sur le sujet, voilà, qui sont convaincus. Et puis, j'ai une petite équipe, mais une équipe de gens qui sont à la fois très pro et très, très engagés. Et on a mis en place tout un dispositif de communication avec des webinaires. On a même fait un motion design sur notre bilan carbone. Et puis on anime un comité, ce qu'on appelle le comité climat, avec toutes les directions représentées. Et je ne dis pas que tout le monde a tout compris, mais vraiment, on a bien progressé et on acquiert une certaine maturité. Par exemple, lors du webinaire, on a fait un webinaire pour expliquer notre bilan carbone, on a eu 700 personnes qui ont suivi. Et pour la contribution pour notre stratégie climat, 400 contributions quand même. Donc, ce n'est pas rien.
Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant de clore cet épisode? Tu sais qu'on aurait encore pu parler, ouais. Il y a plein d'exemples, mais...
Ben moi, je pense que voilà, cette manière dont on veut approcher les questions de santé, moi, je suis persuadé que ça va nous redonner. Et d'abord, ça sera utile à la société, parce qu'aujourd'hui, on est dans une santé en France qui va de moins en moins bien.
Oui, j'ai l'impression.
L'espérance de vie n'augmente plus, l'espérance de vie en bonne santé.
Mais j'ai aussi l'impression qu'on est de plus en plus angoissé sur notre santé. En ce moment, c'est un sujet, quoi.
Ouais. C'est un sujet. Et peut-être que pour lutter contre le réchauffement climatique, contre l'atteinte de la biodiversité, ça peut passer par adapter nos conditions de vie et on peut aller chercher un co-bénéfice, c'est-à-dire avoir des conditions de vie qui, au total, seront plus bénéfiques pour notre santé. Mais sans avoir à faire d'efforts particuliers ou se préoccuper et faire des examens dans tous les sens.
Et puis santé mentale et physique, hein. Faut pas oublier la santé mentale. Hein.
C'est hyper important.
C'est hyper important.
C'est très important. D'ailleurs, santé mentale et physique, enfin les deux sont très liés. Enfin, on sait bien que des problèmes mentaux créent des problèmes physiques. Et puis je terminerai là-dessus. Il y a beaucoup d'études scientifiques aujourd'hui et qui montrent comment les choses interagissent, qui montrent bien que un des facteurs principaux de santé, c'est la qualité des relations sociales. C'est par exemple l'étude que mène Harvard depuis 1938 et qui suit une cohorte depuis cette période-là. Et en fait, ils disent, mais quand vous prenez un homme de 50 ans et que vous voulez prédire ou prévoir peut-être son état de santé à 80 ans, le facteur le plus prédictif, ce n'est pas son taux de cholestérol, je ne sais pas trop quoi, c'est la qualité de ses relations sociales. Et il y a d'autres études qui montrent qu'une personne qui vit seule a 2 à 3 fois plus de risque de mortalité qu'une personne qui vit en couple, par exemple. Donc, c'est essentiel, cet aspect-là. On a une santé mentale qui s'est beaucoup dégradée, là, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes en France, depuis la pandémie. Donc, oui, c'est un sujet sur lequel, évidemment, on est attentif et on agit.
Faites l'amour, pas la guerre. C'était ton mot de la fin. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans l'empreinte. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.